France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et l'on s'intéressera tout d'abord à ce nouveau plan du gouvernement pour rattraper le déséquilibre aujourd'hui en faveur des garçons et donc au détriment des filles dans les formations aux sciences et aux maths. On notera également la détermination sans faille de la ministre de la Culture pour réformer un audiovisuel public qu'elle qualifie de club pour les CSP+ et les plus âgés. L'actualité à l'étranger, c'est évidemment la profonde préoccupation après la confrontation militaire la nuit dernière entre l'Inde et le Pakistan. Avec notre invité, on parlera par ailleurs des préparatifs israéliens en vue de l'invasion de la bande de Gaza. Enfin, nous serons à Rome à quelques heures du conclave pour désigner le successeur au pape François. Lutter contre les biais de genre et autres stéréotypes à l'école, mais aussi susciter des vocations et surtout lutter donc contre le manque de femmes dans les sciences. Pour toutes ces raisons, la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, a choisi de lancer un plan baptisé Filles et Maths et qui devrait s'appliquer dès la rentrée prochaine du primaire au lycée dans 5 académies avant une généralisation l'année suivante. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Même si elle n'utilise pas le terme de quota, la ministre endosse bel et bien l'objectif de forcer le destin donc en renforçant la place des filles dans l'apprentissage des mathématiques.
Oui, si 42% des filles choisissent l'option maths en terminale, dans le supérieur, elles ne sont que 25% à s'orienter dans les formations d'ingénieurs ou des métiers du numérique. Une proportion qui stagne depuis 20 ans. Alors, pour lutter contre ce phénomène d'autocensure, dès la rentrée, tous les professeurs des écoles, ainsi que les enseignants de mathématiques du secondaire, recevront donc une formation en ce sens, comme l'a indiqué ce matin Elisabeth Borne à le confrère de France Inter.
Les filles ont moins confiance en elles et moins confiance en elles dans les maths. Et donc, elles lèvent moins la main quand on fait un cours de maths. Et si on n'est pas attentif à ça, on interroge tout le temps les garçons et pas les filles. On envoie les garçons au tableau et pas les filles. Et puis quand on regarde les appréciations, les filles, on leur dit qu'elles sont consciencieuses et les garçons, on leur dit qu'ils sont brillants.
La ministre de l'Éducation, qui souhaite également expérimenter dès l'année prochaine une classe spécialisée sciences pour les 4e et les 3e, à l'image de ce qui existe par exemple en musique ou en théâtre, des classes qui devront accueillir au moins 50% de filles, a tenu à préciser la ministre de l'Éducation.
L'objectif, c'est de développer aussi la culture scientifique et technique, donc d'avoir des activités supplémentaires pour découvrir les sciences, les maths, autrement, avec des chercheurs, avec des partenaires, et donc de pouvoir sensibiliser des jeunes à la recherche, à l'expérimentation dans les sciences.
Enfin, avec ce plan maths, Elisabeth Borne espère aussi que d'ici 2030, 30 000 filles de plus choisissent l'enseignement spécialisé maths en première, mais surtout qu'elles le poursuivent en terminale, ce qui n'est pas le cas actuellement, Thomas.
Merci Hakim Kasmi. Quand la ministre de la Culture étrille l'audiovisuel public ce matin, Rachida Dati, invitée de nos confrères France Inter, ne s'est pas contentée d'annoncer le retour le mois prochain devant le Parlement de son projet controversé de holding fusionnant Radio France, France Télé et l'INA sous l'autorité d'un ou d'une présidente. Elle a également redit sa détermination, quitte à cibler directement la patronne de la maison de la radio. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Rachida Dati s'est montrée extrêmement sévère à l'égard de l'ensemble, en réalité, du service public.
Oui, elle a d'abord annoncé que sa réforme, plusieurs fois reportée, devrait être de retour à l'Assemblée nationale avant la fin de la session parlementaire, c'est-à-dire avant l'été.
Là, le texte sera, puisque là on est en train d'examiner le calendrier parlementaire, sans doute en juin, mais je suis déterminée sur cette réforme.
Car pour elle, cette réforme est nécessaire et même indispensable afin de développer l'offre numérique pour s'adapter à la concurrence des grandes plateformes audiovisuelles que sont Netflix ou encore Amazon.
Il faut pouvoir résister à cette plateforme par des investissements massifs, une gouvernance unique, une stratégie convergente et les audiences.
Rappelons qu'elle prévoit de regrouper l'ensemble de l'audiovisuel public, radio et télévision, sous une même holding, avec un PDG unique. L'autre raison pour laquelle il faut faire cette réforme, selon la ministre de la Culture, c'est parce que, dit-elle, l'audiovisuel public ne remplit plus son rôle de service public.
Les audiences
sont bonnes.
Oui, mais chez qui ? Vous avez les détails ou pas ? Plus les jeunes, plus les classes populaires. Ça devient un club. C'est CSP+, et plus âgés. C'est une réalité. Voilà. Et donc l'audiovisuel public, pour moi, je considère que c'est un service public qui doit s'adresser à tout le monde et sur tout le territoire.
Cette réforme est très contestée à Radio France comme à France Télévisions. Le Sénat y est globalement favorable, mais de nombreux députés la contestent également à l'Assemblée. Pourtant, Rachida Dati veut croire qu'une majorité des parties prenantes la soutient.
Moi, je rencontre les journalistes, les syndicats, les représentants. Je reçois tout le monde à mon bureau sur cette réforme. Elle commence à faire consensus, malgré aussi la caricature qu'on en fait.
Et la caricature qu'on en fait vient notamment de la direction de Radio France, affirme Rachida Dati.
Votre présidente, Sybille Veil, je l'ai appelée parce qu'il faut arrêter de caricaturer cette réforme en disant que c'est une réforme d'extrême droite. Voilà la manière dont Madame Veil présente la réforme que je porte. Il faut arrêter de caricaturer.
En réalité, ce que dit Sybille Veil, c'est que si cette réforme devait être votée à l'Assemblée nationale, il ne faudrait pas que ce soit grâce aux voix des députés du Rassemblement national et donc de l'extrême droite.
Merci Stéphane Robert.
Pardon, midi passé de 35 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
C'était il y a 3 ans, jour pour jour, le 7 mai 2022, parti pendant les vacances de Pâques pour visiter l'Iran, Cécile Kohler, professeur de lettres, et son compagnon Jacques Paris, professeur de mathématiques à la retraite, étaient arrêtés pour espionnage. Depuis, les deux derniers otages de la République islamique sont incarcérés, chacun dans une cellule sans fenêtre, 3 années de soumission à de mauvais traitements et à une torture psychologique quotidienne jusqu'à être gagné désormais. Mais par le désespoir, la France agit sans relâche pour obtenir leur libération, assuré ce matin Emmanuel Macron. Retour sur ces 3 années déjà de cauchemar avec Valérie Crovin.
Ce sont les 2 derniers Français encore emprisonnés en Iran. Arrêtés au dernier jour d'un voyage touristique, Cécile Kohler est cloîtrée depuis 3 ans dans une cellule de 8 mètres carrés, placée sous vidéosurveillance et éclairée en continu. La jeune femme, qui a fêté ses 40 ans dans la prison pour femmes d'Evin de Téhéran, ne voit la lumière du jour que 2 fois par semaine, lors d'une promenade d'une demi-heure dans une petite cour. De l'extérieur, rien ne lui parvient, ni les lettres, ni les livres qui lui sont envoyés par ses proches. Son compagnon est soumis au même régime que les autorités françaises comparent à de la torture. En 3 ans, ils n'ont reçu que 4 visites consulaires, en violation de la Convention de Vienne, qui est censée protéger les droits et les intérêts de toute personne incarcérée à l'étranger. Dans le cas de Cécile et de Jacques, le consulat de France ne peut pas intervenir, tant la procédure judiciaire est opaque et les droits à la défense inexistants. Nous sommes dans le royaume de l'arbitraire, déplore le porte-parole du Quai d'Orsay. Pour faire pression sur la République islamique, la France va déposer plainte devant la Cour internationale de justice de La Haye.
Vêtu désormais à l'occidental, le président syrien Ahmed al-Shara, toujours en quête de plus de soutien dans ses efforts parfois controversés destinés à apporter davantage de stabilité à son pays, sera reçu cet après-midi par Emmanuel Macron. Depuis la chute de Bachar al-Assad, la France n'a cessé de soigner ses relations avec les autorités intérimaires à Damas, sans pour autant d'ailleurs oublier le passé d'ex-djihadiste affilié à Al-Qaïda du chef de la coalition islamiste au pouvoir.
En attendant, Emmanuel Macron, toujours lui, reçoit en ce moment même le nouveau chancelier allemand.
Oui, Friedrich Merz, lequel aura dû passer hier un humiliant 2e tour de vote au Parlement pour être désigné chef du gouvernement. Un fait inédit qui révèle sinon l'impopularité, la faiblesse d'ores et déjà de sa majorité. Reste malgré tout l'espoir donc d'une relance du couple franco-allemand sur lequel repose en partie l'avenir du vieux continent sous la double menace de la Russie d'un côté et du désengagement américain de l'autre.
Est-ce le début d'une nouvelle guerre ?
Ou à tout le moins d'un cercle vicieux meurtrier cette nuit en représailles à l'attentat meurtrier qui a visé plusieurs touristes le 22 avril dernier. L'Inde a mené des frappes au Pakistan. Islamabad a aussitôt riposté par des tirs d'artillerie au Cachemire. Au moins 30 de personnes, essentiellement des civils, ont été tuées de part et d'autre de la frontière, soit les violences les plus importantes entre les 2 puissances nucléaires depuis ces 20 dernières années. Notre correspondante au Pakistan, Sonia Ghezali, a pu s'entretenir ce matin avec un habitant de Bahawalpur, dans le Punjab. Il réside à quelques kilomètres seulement de l'un des sites frappés par l'Inde la nuit dernière. Témoignage.
Les habitants se demandent s'ils sont en sécurité après la nuit dernière. Il était environ 1h du matin lorsqu'ils ont été réveillés par des déflagrations. Ghulam Mohaouyuddin Bukhari, un résident, nous raconte au téléphone ce dont il a été témoin.
Il y a eu une énorme explosion. C'était la nuit. Il y a eu tellement de détonations que nous nous sommes immédiatement précipités sur le toit de notre maison. Là, nous avons vu une lumière orange qui a rapidement viré au rouge sous nos yeux. Environ 5 secondes plus tard, nous avons entendu une autre explosion et les gens ont commencé à sortir précipitamment de chez eux. Après ce qui s'est passé la nuit dernière et cette situation actuelle, tout le monde est effrayé maintenant. Mais en même temps, le moral est bon et nous sommes prêts à faire face à n'importe quelle situation.
Une désescalade est peu probable à ce stade. En témoigne le communiqué publié à l'issue du Conseil national de sécurité qui s'est tenu ce matin. Le Pakistan se réserve le droit de répondre à l'Inde en toute légitime défense, peut-on lire. Les forces armées pakistanaises ont été autorisées à entreprendre les actions correspondantes à cet égard. Fin de citation.
Parce qu'il a été porté au pouvoir sur une affirmation de la fierté canadienne, mais aussi la promesse de tenir tête au président américain. L'entrevue hier du nouveau Premier ministre, Mark Carney, dans le bureau ovale, promettait d'être tendu. Au final, le dirigeant libéral au tempérament mesuré et rompu à la gestion de crise s'est gardé de trop braquer Donald Trump, tout en reprécisant que son pays n'était pas à vendre. De son côté, en dépit de cet échange, disons cordial, le locataire de la Maison-Blanche n'a donné aucun signe de recul, en particulier s'agissant des droits de douane. C'est simplement comme ça, a-t-il déclaré.
Et c'est encore par l'une de ces formules lapidaires que Donald Trump a annoncé hier la fin des frappes américaines contre les rebelles houthistes du Yémen soutenus par l'Iran.
Ils ne veulent tout simplement plus se battre et nous allons honorer cela, a-t-il lâché en guise d'explication ces dernières semaines. Les centaines de frappes meurtrières des États-Unis auront surtout aggravé la catastrophe humanitaire dans ce pays assez largement oublié, sauf d'Israël dont les bombardements sur l'aéroport international de la capitale Sanaa ont fait 3 morts et causé des dégâts estimés à 1,5 milliard de dollars. À Gaza, où la population palestinienne n'attend plus la mort mais la vie quotidiennement, comment les prochaines semaines pourraient-elles être plus brutales encore? Et pourtant, le gouvernement de Benjamin Netanyahu est bel et bien en train de préparer l'impensable, l'occupation de l'enclave au déni du droit international et au mépris des opinions publiques. Le premier ministre israélien ne s'en cache plus. La priorité n'est pas la libération des otages, mais de reconquérir Gaza pour y assurer, je cite, la victoire sur nos ennemis, ce qui pourrait signifier à terme un découpage puis un rétrécissement drastique du territoire ainsi que de nouveaux regroupements massifs de population, synonyme de déshumanisation. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Vincent Lemire, professeur d'histoire à l'université Gustave Eiffel. Bonjour monsieur.
Bonjour.
En quoi cette nouvelle offensive à venir donc dans la bande de Gaza se distingue-t-elle des précédentes?
Mais je crois d'abord parce qu'on passe officiellement d'un objectif d'éradication du Hamas, qui était un objectif militaire, stratégique, un objectif d'éradication et d'expulsion de la population civile de Gaza. C'est ça le tournant. Ce nouvel objectif, il est désormais crédible. Hein. Depuis la fin du mois de mars, a été créée une administration chargée, je cite, du transfert volontaire des populations de Gaza. C'est une administration qui est chargée qui est placée sous l'autorité directe du Premier ministre. Il y a des financements. Et il faut dire que cet objectif d'éradication, d'expulsion d'une population civile, ça veut dire qu'on va déraciner cette population civile, c'est un objectif de nettoyage ethnique, organisé, planifié, assumé. Et il faut dire que depuis 1994, depuis le tribunal pénal sur l'ex-Yougoslavie, le nettoyage ethnique est constitutif de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide. Ce qui est nouveau, c'est que c'est maintenant énoncé dans la bouche même du Premier ministre israélien.
Monsieur Lemire, à quelle date faut-il remonter pour comprendre véritablement ce que représente une occupation, même temporaire, de la bande de Gaza par l'armée israélienne?
Depuis 2005, l'armée israélienne s'est retirée de la bande de Gaza. C'était la fameuse décision d'Ariel Sharon, donc ça fait 20 ans. En fait, Israël n'a jamais su quoi faire, ni de la bande de Gaza, ni de la population de la bande de Gaza. Il faut rappeler, par exemple, qu'après la guerre des six jours, les Israéliens ont mis 4 ans, jusqu'en 1971, de 1967 à 1971, 4 années pour reprendre le contrôle en fait militaire de cette bande de Gaza. Peut-être certains de vos auditeurs ont lu la bande dessinée Gaza de Joe Sacco, qui documentait les incursions meurtrières de l'armée israélienne en 1956. Gaza, c'est le bastion de la résistance palestinienne. Pourquoi? Parce que la population de Gaza, c'est 80% de réfugiés. Donc, en fait, Israël n'a jamais su quoi faire de cette bande de Gaza. Et c'est pour ça que là, on passe à un nouvel objectif qui est finalement de se débarrasser de cette population dont on ne sait pas quoi faire.
Hier, le mouvement islamiste palestinien Hamas a estimé que dans ces conditions, des négociations pour une trêve avec Israël n'avaient plus aucun sens. Pousseriez-vous le cynisme jusqu'à considérer que c'était là l'objectif final de Benjamin Netanyahou, parvenir donc à la destruction totale de la bande de Gaza ?
Mais écoutez, le vocabulaire qui est utilisé depuis 48 heures est absolument terrible. Hein. On parle maintenant de zone stérile. De Gaza comme zone stérile. Donc voilà, ça veut évidemment dire destruction totale. Et ça, il y a eu un autre vocabulaire utilisé ces dernières semaines. Hein, on parlait de kill zone. On parle aussi maintenant ouvertement à la télévision israélienne d'une seconde Nakba. Il faut rappeler que la première Nakba, hein, l'expulsion des Palestiniens de 1948, c'est 750 000 personnes. Là, on parle de 2,3 millions de personnes. Et puis, il faut être attentif à ces questions de vocabulaire. On parle toujours pour l'instant d'émigration volontaire ou de transfert volontaire. Mais je rappelle que fin 2023, le ministre Shlomo Kéry avait dit publiquement hein, « l'émigration volontaire doit parfois être imposée avant d'être consentie ». Donc c'est ça hein, la définition de l'immigration volontaire. À partir de janvier 2024, il y avait eu l'ouverture de la procédure devant la Cour internationale de justice pour risque plausible de génocide, et donc ces projets étaient passés sous silence. Ce qui a tout changé, c'est l'arrivée de Donald Trump en février, qui fait que maintenant le gouvernement israélien, au plus haut niveau, se sent autorisé en fait à assumer cet objectif d'expulsion de la population civile de Gaza.
Malgré tout, des voix dissidentes s'élèvent aujourd'hui en Israël contre ce projet, que ce soit dans la sphère politique, la société civile. Pourquoi ne parviennent-elles pas à se faire entendre ?
Alors, parce que elles sont le seul dissensus, le seul vrai dissensus en Israël, vous le savez, c'est sur la question des otages. Et donc, les manifestations massives hein, que l'on voit toujours le samedi soir, c'est essentiellement sur la question des otages. Et donc, c'est que on pense que une offensive militaire mettrait en danger la vie des otages. Mais ce qui est terrible à dire, c'est que plus de 70% de la population israélienne soutient le plan Trump, hein, soutient le plan de nettoyage ethnique de la bande de Gaza. Donc effectivement, il y a fort heureusement à gauche et à l'extrême gauche il y a des consciences qui s'expriment, mais il faut dire qu'une bonne partie de la population israélienne soutient ce plan. Bon, à l'extrême droite parce que ça fait complètement partie de son agenda, mais même au centre gauche. Parce que, d'une certaine manière, ça permettrait de se débarrasser de ce problème, de se débarrasser de cette mauvaise conscience que représente la bande de Gaza pour la gauche israélienne.
C'est bien noté. Merci Vincent Lemire, professeur d'histoire de l'université Gustave Eiffel, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Louise Garin pour la préparation.
Plus de deux semaines après la mort du pape François, les 133 cardinaux électeurs entreront cet après-midi en procession dans la chapelle Sixtine.
Oui, au chant de la litanie des saints, ils s'enfermeront ensuite face à la fresque aussi majestueuse qu'intimidante. Le jugement dernier, un premier vote pour désigner le nouveau souverain pontife aura lieu ce soir. Le monde aura alors les yeux rivés sur la mince cheminée et surtout sa fumée annonciatrice, mais il est peu probable, a priori, que la majorité des deux tiers soit atteinte dès le premier tour de scrutin, auquel cas cette élection atypique, sans candidat ni campagne et à l'abri des regards, se poursuivra demain. Alors, il se trouve que 5 cardinaux de nationalité française participent à ce conclave. Le nom de l'un d'entre eux circule d'ailleurs parmi les favoris, l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline. C'est également un Français, le cardinal Mamberti, qui prononcera le fameux Habemus Papam lorsque le nouveau pape sera élu. Et pour toutes ces raisons, la France fait donc déjà parler d'elle. Mais au-delà, quelle influence l'Église de France peut-elle avoir dans ce conclave ? Notre envoyé spécial, Cécile Bidot, s'est rendu à l'église Saint-Louis des Français à Rome. Reportage.
La messe vient de se terminer, les fidèles se dispersent. Il y a moins de deux semaines, c'est Jean-Marc Aveline lui-même qui présidait la célébration ici, co-célébré par le cardinal d'Ajaccio, François Bustillo, deux Français très en vue à Rome. Christian, un Breton en pèlerinage, s'interroge sur le poids réel des cardinaux français dans ce conclave.
Il pèse sûrement peu quand on voit aujourd'hui la place de l'Église de France dans l'Église mondiale, mais le cardinal Aveline est quelqu'un d'avenant, qui était proche aussi du pape François. Et nous, on a besoin d'une église qui soit, on dira, au centre pour rassembler tout le monde.
Vous y croyez, un pape français ?
On espère, pourquoi pas, il faut prier pour ça.
Sur le parvis de Saint-Louis des Français, un groupe de Lillois est rassemblé autour du prêtre qui les accompagne. Benoît de Banst enseigne la théologie à la faculté catholique de Lille.
C'est bien en fait que toutes les nations soient représentées, mais surtout dans l'église, les nationalismes doivent pas disparaître, mais être relatifs à la fraternité universelle. Moi, je pense que les cardinaux sont très conscients de ça. Si c'est juste pour nationalité, c'est quand même bien triste. Hein. De toute façon, Dieu nous dépasse complètement. Hein. Donc, nous, on a peut-être nos petits calculs, je sais quoi, mais lui, quand on calcule, il rit. Hein.
Le dernier pape français, c'était Grégoire XI, il y a 650 ans.
Un reportage à Rome signé Cécile Bidou. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Alternance de nuages et de timides éclaircies. Quant aux températures, elles sont comprises entre 12 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Alison Vicrobeck. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.